D'abord, la première, pour me faire un peu le porte-voix de tous ceux qui ne sont pas familiers avec le monde de la logistique, je pense, et la question s'adresse peut-être à l'un et à l'autre, que ça nous serait utile que vous nous intégriez cette présentation de Socaris dans un panorama un peu plus large de ce marché de la logistique. Vous nous avez dit alors qui en sont les principaux acteurs. Vous nous avez dit que au départ vous étiez un service et puis vous êtes devenu simplement une foncière. Est-ce que cette articulation entre le service de transport et le foncier, l'immobilier, comment ça s'articule? Est-ce que les autres grands acteurs articulent les deux? Et puis vous nous présentez aussi des démarches très vertueuses. Et la question que je me pose en voyant ça, c'est au fond, comment est-ce qu'on survit dans ce monde de brut avec des projets de cette qualité quand les concurrents ne s'imposent peut-être pas les mêmes exigences? Voilà, s'il y a d'autres questions pour, disons, d'éclairage, de cadrage, allez-y. Ce que je vous demanderai dans cette séquence-là de questions, c'est peut-être de vous présenter pour qu'on sache d'où vous parlez.
Donc évidemment, Solaris n'est pas le seul acteur dans l'immobilier logistique en France et en région Île-de-France. Il y a d'autres acteurs, il y a d'autres foncières, il y a des investisseurs, et il y a aussi des spécialistes de la logistique, comme le groupe La Poste, le groupe SNCF, ou d'autres grands transporteurs comme STF, TFE, qui ont leur propre foncière, et qui portent leur FM logistique aussi à sa foncière, et qui portent leur actif. Donc c'est cette dernière catégorie. Pour Solaris, ça peut être soit un concurrent, soit un partenaire, soit un client. Voilà. Tous ces projets, nous les développons prioritairement en partenariat avec d'autres acteurs. Pour chacun d'entre eux, je vous ai cité nos partenaires. Hein. Solaris est soit mandataire du dossier et porte le dossier dans sa globalité en étant associé, en associant à son développement d'autres acteurs dans l'immobilier tertiaire ou autre. Soit, si c'est des petits sites, on peut le porter seul et on va chercher des opérateurs pour venir l'exploiter. Donc le travail de Socaris, c'est d'aller au-delà de développer des simples surfaces de mètres carrés. C'est aussi travailler sur la façon dont ces surfaces vont être utilisées. Alors on n'est pas les seuls sur le secteur. On a une petite spécificité, donc on est public-privé, donc c'est assez rare dans ce secteur-là, on doit être à peu près les seuls. Je crois qu'il y a une autre SEM dans le département du Nord qui porte une grosse plateforme qui s'appelle Delta 3, qui est aussi une SEM portée par le département du Nord, hein, qui a à peu près le même statut que nous, pour aménager cette très très grande plateforme, au départ duquel pourrait partir une des quatre navettes dont je vous ai parlé, donc qui est partie du Dourges, hein, Delta 3. Donc une autre spécificité fait que nous devons développer des projets rentables. On ne peut pas développer des projets qui ne sont pas rentables. On doit apporter la preuve à nos actionnaires que tout ce qu'on développe a une rentabilité. Notre objectif, c'est un TRI après impôt de aux alentours de 5,5%. Et nos concurrents, souvent, recherchent des taux de rentabilité supérieurs. Voilà. Et notre spécificité par rapport à des concurrents typiquement foncières, c'est que nous, on prend le risque de venir en milieu très urbain et on va, au-delà d'implanter des simples surfaces logistiques, on va aussi travailler avec les futurs utilisateurs pour faire en sorte que ces surfaces soient utilisées de la façon la plus urbaine possible et la plus durable possible. Voilà.
Oui, bien sûr.
Merci Christophe, tu es d'une grande clarté et rigueur. De façon historique, pour prendre un peu de recul, traditionnellement, beaucoup de chargeurs, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire soit des industriels, soit des distributeurs ou d'opérateurs logistiques, étaient propriétaires de leurs installations, avec comme conséquence d'ailleurs des implantations disséminées, parfois diffusant les nuisances et empêchant le partage d'installations et de services, comme Socaris, par exemple, le réalise. Et la tendance historique a été une sorte de désintégration verticale, c'est-à-dire que plutôt que d'être propriétaire, être locataire de ces installations. DHL, par exemple, la filiale logistique de la Poste allemande, je connaissais le directeur immobilier, il avait reçu l'ordre de tout vendre et de relouer le lendemain ce qu'il venait de vendre à des investisseurs, mais c'est la souplesse, on entre, on sort, de façon beaucoup plus facile. Ce qui fait que la dimension immobilière de la logistique s'est fortement professionnalisée. À cet égard, vous étiez des pionniers parce que vous êtes né il y a 60 ans et la tendance que je dis, elle était plutôt il y a 15 ou 20 ans. Mais on a des investisseurs logistiques à l'échelle mondiale comme Prologis qui est simplement à peu près 120 fois plus grand que toi. Hein, ils ont 60 millions de mètres carrés dans le monde. Et toi et moi avons visité ensemble à Tokyo un bâtiment de 8 étages, avec des courbes hélicoïdales qui montaient les poids lourds jusqu'au 8e étage. Et donc, on a, autrement dit, la logistique, c'est à la fois les flux et les nœuds. Et les nœuds, tu en parles fort bien. Et une bonne partie de la valeur ajoutée se produit justement dans les opérations statiques et pas seulement dans le transport. Donc la logistique, c'est beaucoup plus, c'est le transport et beaucoup plus que le transport. Tout à fait.
Oui, bonjour. Patrick Falcon de l'Office national des forêts. Alors, on ne fait pas de la logistique intra-urbaine, généralement, sauf pour les plaquettes de chauffage. J'avais trois rapides questions. Si j'ai bien compris, par exemple, vous avez cité Gare au Nord, qui est une autre scène, et ça veut dire que dans Paris, dans la proche couronne, ils ont leur même type d'installation. On peut avoir juste à côté une autre plateforme, un autre hôtel. Deuxièmement, comment vous appréhendez ces grands flux de camions? Les riverains sont peut-être confrontés, au moins localement, à beaucoup de nuisances. Et troisièmement, j'ai été surpris de la manutention. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de... Ben, je suis content que les gens aient du boulot pour faire la manutention, mais quand même, ça m'a paru quand même un peu archaïque, hein, que des gens déchargent des camions et rechargent d'autres modes de transport à la main. Enfin, voilà.
Donc effectivement, je disais, Solaris, c'est absolument pas un seul sur ce secteur. Hein. Dans toute l'agglomération parisienne, même en dehors, vous avez énormément d'autres plateformes logistiques, d'autres actifs logistiques très, très éparpillés. Gare Nord n'est plus du tout géré par une... n'a jamais été géré par une SEM et ne l'est pas. C'est un investisseur privé. Et aujourd'hui, vous avez énormément d'actifs qui étaient présents dans la partie centrale de l'agglomération, qui ont été détruits, vendus, transformés en autre chose. Et la logistique est partie principalement se positionner beaucoup plus loin de la partie centrale. On appelle ça le desservant logistique. Je crois que Michel a travaillé dessus avec Laetitia. Et aujourd'hui, on voit que le parcours moyen d'un colis pour être distribué dans Paris, il a été multiplié par deux, voire trois, ces deux ou trois dernières décennies, avec le bilan environnemental très dégradé que l'on connaît. Donc aujourd'hui, la tendance, c'est au desservement logistique, donc ces plateformes dont on parle et dans lesquelles il y a de multiples acteurs, elles se positionnent de plus en plus loin par rapport à la partie centrale de l'agglomération. Et Solaris, c'est vrai, est un des acteurs... qui va un peu à contresens en voulant soit restaurer des sites pour maintenir la logistique en milieu urbain, soit réimplanter des nouveaux sites pour maintenir la logistique en milieu urbain. Voilà. Donc on arrive à le faire avec la péréquation dont je vous ai parlé, on arrive à le faire aussi avec l'aide de la ville de Paris dans le cadre de ses appels à projets et dans le cadre aussi du plan local d'urbanisme de la ville de Paris dans lequel il y a des zones qui ont été prioritairement définies, Synaspic, etc., pour permettre à la logistique d'être prioritaire sur ces zones. Et ça, c'est une démarche très importante que la ville de Paris a fait. Et je pense qu'il sera repris par d'autres collectivités à l'extérieur de la ville de Paris et d'autres villes en France. Mais aujourd'hui, Solaris n'est pas du tout le seul acteur sur ce secteur. Voilà. Alors, en termes de manutention, plus la charge à manutentionner est lourde, plus ça va être mécanisé, forcément. Sur Chapelle, je vous ai dit, hein, les caisses sont manutentionnées avec des ponts roulants. Plus la charge est légère, des petits colis, effectivement, plus la manutention sera manuelle. Alors, il y a quand même des convoyeurs qui permettront d'accélérer ce déchargement. Beaugrenelle, c'est une toute petite agence pour Chronopost. Chronopost a de très grosses agences internationales, etc., où là, il y a beaucoup plus de mécanisation, parce qu'il y a énormément de flux qui passent tous les jours. C'est des plateformes beaucoup plus grosses que Beaugrenelle. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi, dans la messagerie, des plateformes excessivement mécanisées. Mais lorsque vous arrivez en bout de chaîne, pour trier de façon très très fine à l'adresse des colis, souvent, encore, ça se fait à la main, avec des lectures code-barres, et chacun prend son colis.
Les camions, les flux de camions là.
Alors, les flux de camions, effectivement, lorsqu'on se positionne sur un site, ça nécessite pour nous un gros effort d'explication, de participation, des concertations, etc. Sur Chapelle, la concertation a été menée par l'aménageur, Espace Ferroviaire, mais nous, on a participé à chacune de ces réunions de concertation. Je crois que depuis 2010, moi, j'ai dû participer à 30 ou 32 réunions de concertation en mairie du 18e pour expliquer pas à pas notre projet. Et d'ailleurs, les riverains ont émis des idées qu'on a reprises. ont été soucieux de connaître le nombre de véhicules, le type de véhicule, etc., etc. Ils ont même demandé d'aller plus loin que ce que l'on avait prévu de faire, mais bon, en utilisant le tramway qui passe à proximité pour faire arriver des marchandises aussi dans Chapelle. On n'a pas réussi à le faire dans Chapelle, mais on espère pouvoir le faire à Bercy, où à Bercy, on aura un niveau route qui sera exploité par la Poste, un niveau terminal ferroviaire urbain comme celui-ci, et un niveau sur le boulevard Poniatowski, dans lequel on aura un terminal tram fret. Voilà, donc on aura un cran au-dessus sur Bercy.
J'ai une question. Enfin, vous payez les trois questions. Elisabeth Gaillarde, Colas. J'ai une question en lien avec la dernière sur les flux de camions. Pour revenir à votre échelle que vous avez évoqué donc le bassin, etc., jusqu'au cœur. Or, pour des problématiques justement de logistique et pour éviter les flux de camions, il y a des services qui développent de points de centralisation de logistique à un niveau encore plus infra que le cœur de l'agglo. Si j'ai bien compris, vous êtes aussi en charge de l'innovation. Qu'est-ce qu'il faut nous en dire sur cette réflexion? Est-ce que vous orientez aussi vers décembre, enfin dans la finesse, dans votre maillage, en partenariat avec ces acteurs qui émergent, qui ne sont pas forcément encore très structurés, j'ai plus les noms en tête, mais pour faire à des points de collecte à un niveau plus infra et du coup faire du dernier kilomètre qui ne soit pas en camion mais qui soit sur des modes de transport peut-être plus vertueux?
Donc, on descend encore en dessous du niveau de l'EID, effectivement. Donc, effectivement, on observe la mise en place de ces points relais, de ces espaces de consigne. Il y a aussi l'aire de livraison, qui est le dernier maillon à l'échelle de la rue dédié aux marchandises, qui est très important. Sur Paris, vous avez à peu près 10 000 aires de livraison à gérer. Tout ça, effectivement, on le regarde. On regarde les innovations qui peuvent être portées par rapport à ces livraisons de proximité. Moi, je parlerai du dernier mètre plutôt que du dernier kilomètre à cette échelle-là. Nous le regardons par l'intermédiaire de notre coopération avec Paris & Co, où on a créé cet incubateur autour de la logistique urbaine durable et de la mobilité urbaine durable. Nous avons recruté deux promotions de start-up. Aujourd'hui, il y a une trentaine de start-up dans cet incubateur. Et nous regardons les innovations portées par ces start-up. En parallèle à ce plan stratégique de développement que je vous ai présenté, on a aussi un plan stratégique en innovation, et sur lequel on va essayer de capter de l'innovation de la part portée par ces start-up et portée par d'autres structures, pour essayer d'alimenter notre schéma de développement avec ces idées nouvelles et avec ces innovations. Alors, descendons en dessous de l'espace urbain de distribution, vous l'avez compris que nous, on est prioritairement une foncière, donc on doit créer des mètres carrés, on vit avec ça. Aller gérer des aires de livraison, il n'y a pas beaucoup de foncier. Aller gérer des points relais hébergés dans d'autres commerces, il n'y a pas non plus de foncier, d'immobilier. Aller gérer des consignes, on pourrait se poser la question, on s'est posé d'ailleurs, ça peut aussi nous intéresser. Pour le moment, on n'a pas encore franchi le pas, parce que ce n'est pas une approche immobilière en tant que telle. Voilà, les trois niveaux sont vraiment en relation avec une approche immobilière. Ça veut dire pour ça qu'il n'y a pas des niveaux plus bas. Mais pour moi, le niveau plus bas, aujourd'hui le plus développé, c'est le point relais et l'aire de livraison. Ouais.
J'ai une question.
Oui. Marion Alfaro, je travaille chez Arropa, Port de Paris. J'aurais juste, par rapport au projet de Chapelle International et la question de Magali, dire que donc, Port de Paris, on est un promoteur du trafic fluvial, mais on cherche aussi à valoriser tous les modes de transport plus durables. Et il se trouve que nos deux grandes plateformes, Genevilliers et Bonneuil, sont branchées avec le ferroviaire. On gère aussi les infrastructures ferroviaires. Et dans le projet de Chapelle International, il y a un projet de navette ferroviaire entre Chapelle International et le port de Bruyères-sur-Oise, qui est un des ports gérés par Port de Paris, d'où notre implication dans le projet. Et puis peut-être dire que, enfin c'est pas vraiment une question, mais une réflexion sur, nous aussi on est confrontés à cette tension sur nos espaces, c'est-à-dire entre l'espace de loisirs, de promenade, etc., et l'espace plus d'activité, notamment logistique, qu'on souhaiterait développer. Et nous, on a tendance à répondre que la solution, elle est aussi dans la mixité, dans le temps, dans le temps de la journée, c'est-à-dire qu'un port peut être un port de logistique le matin, et qu'après-midi, il peut être dévolu à des activités plus loisirs, etc., qui a aussi la piste l'innovation, elle est aussi là-dedans, sur l'usage et le découpage dans la journée.
C'est vrai, oui.
Et puis pour finir, j'ai juste j'ai été très marquée récemment par le discours du maire de Boulogne. Le maire de Boulogne, il dit, moi j'ai zéro espace logistique dans ma ville, et il se retrouve en fait à avoir des camions chargés qui circulent toute la journée et qui vont approvisionner les supérettes au fil de leurs besoins. Donc il a un trafic qui n'a aucun sens, des kilomètres qui n'ont pas lieu d'exister, juste parce que il y a eu peut-être un manque d'anticipation et sur cette question de logistique et de mètres carrés.
Tout à fait. Tout à fait. Donc à Repart, il y a aussi notre partenaire sur l'espace urbain de distribution de Bourgonnel, parce qu'on est aussi ensemble dessus. Alors, je pense que pour la question posée sur la question de la ville de Boulogne et sur d'autres grandes villes, je pense qu'une des portes d'entrée, c'est quand même le générateur de mouvement. C'est le générateur de mouvement, c'est le commerce final, c'est le complexe tertiaire, etc., etc. Lorsque les villes vont traiter l'acceptation ou l'autorisation d'implanter un commerce, un immeuble sur leur territoire, je pense que dans le cadre de l'instruction des commissions liées au permis de construire ou autorisation commerciale, la partie logistique doit aussi être regardée au même titre que la partie architecturale, la partie urbanisme, etc., etc. Moi, quand j'étais à la direction d'urbanisme, la direction de la voirie des déplacements de la ville de Paris, dans la commission, la CDC, la commission départementale d'équipement commercial, on était consultés pour tous les gros commerces qui s'implantaient dans Paris, et on nous demandait d'analyser la partie livraison de ces installations, et on remontait la chaîne en leur disant, mais d'où ça vient, par quel type de véhicule, comment vous faites, etc. Et souvent, on mettait des prescriptions en disant il faut améliorer tout ça parce que la voirie, elle ne peut pas supporter la logistique de votre magasin. Vous devez l'intégrer dans votre système.
Juste pour continuer, Nicolas Orsay des autoroutes APRR, juste pour continuer sur ce sujet et de ce que disait Patrick tout à l'heure sur les impacts du bruit, est-ce que vous êtes soumis quand vous faites des bâtiments de ce type-là, des études d'impact? Et notamment, et la deuxième question corollaire, c'est par rapport à la politique de déplacement dans Paris, restrictive aujourd'hui, comment ça s'articule pour que vous puissiez quand même développer vos flux logistiques qui se font de toute façon avec des voitures, même si elles sont électriques, dans l'intra-urbain parisien?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, pour les gros bâtiments, on est soumis à études d'impact. Sur Chapelle, on a eu une étude d'impact et une enquête publique spécifique pour notre permis de construire.
Sur Beaugrenelle aussi?
Non, sur Beaugrenelle, on n'a pas eu. C'est le tout petit site. On a eu un permis de construire classique, on n'a pas eu d'étude d'impact. Ça n'a pas empêché de faire une concertation avec les gens d'à côté, mais on n'a pas eu d'étude d'impact sur Beaugrenelle. Et l'étude d'impact, d'ailleurs, je dois dire, et l'enquête publique sur Chapelle, c'est très bien passé. Le commissaire enquêteur qui a fait 5 permanences en mairie du 18e n'a pas eu d'avis négatif. On a même eu des demandes d'aller plus loin que ce que l'on faisait, à l'époque, ce que l'on comptait faire. Et aujourd'hui, l'acceptation pour moi est bonne.
Mais... Voilà, parce que vous arrivez à montrer que vous diminuez les flux, vous les concentriez, qu'il y avait un bénéfice global pour le...
Pour la collectivité, oui. Tout à fait, oui. Nous, on s'est engagé sur un nombre de mouvements maximum, sur Chapelle, sur Beaugrenelle, etc., etc. On s'est engagé sur la qualité environnementale des flux, par le fer dans Chapelle, pas exclusivement, mais principalement par le fer. Sur Beaugrenelle, on s'est engagé avec Renopost sur des flux électriques en termes de distribution. Et sur Beaugrenelle, on avait mis en avant que la transformation d'un parking en espace urbain distribution allait baisser le nombre de flux. C'est-à-dire qu'un parking classique à la journée générait plus d'entrées-sorties que l'espace urbain de Beaugrenelle, qui va générer en moyenne par jour 4 arrivées de gros véhicules en horaire décalé, de 5h30 à 6h, 7h, et ensuite une entrée-sortie de 30 véhicules, donc c'est 60 mouvements à la journée, c'est pas beaucoup, même si on double, 120 mouvements par jour plus 8 gros véhicules industriels, c'est tout à fait acceptable par la voirie des fronts de Seine.
Je regrette, on est obligé de s'arrêter et de poursuivre, d'une part parce que M. Huppert doit partir, donc
Merci.
Je vous remercie infiniment pour cette...